Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette toute nouvelle capsule de la critique de Yugi. Capsule express, semi-express en fait, je devrais dire, parce que je penserais pas qu'elle dure 15-20 minutes. Je vise peut-être plus le 30 minutes. Beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui dans cette capsule. Mais tout d'abord, encore une fois, comme à chaque fois, je tiens à vous remercier tout le monde qui nous écoute présentement. Super content que vous soyez là, super content d'être avec nous à chaque fois. N'oubliez surtout pas de nous encourager en allant cliquer sur le petit bouton télécharger de la plateforme que vous nous écoutez présentement, que ce soit Spotify ou Apple Pod ou Google Pod ou peut-être même Balado Québec ou peu importe la plateforme que vous utilisez. C'est sûr qu'il y a un petit bouton quelque part qui est écrit soit abonné, soit téléchargé. Ou des petites étoiles que vous pouvez nous donner, sort 5 étoiles, 4 étoiles. On s'arrête là parce qu'on veut pas aller plus bas. Donc, n'hésitez pas à aller faire ça. Ça nous encourage beaucoup, 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 beaucoup. Ça nous aide à apparaître plus fréquemment dans la barre de recherche lorsque les gens cherchent un bon podcast à écouter pour une thématique télévisuelle, cinématographique et jeux vidéo. Là-dessus. On commence tout de suite avec l'épisode d'aujourd'hui, épisode consacré à des séries télé, mais sincèrement, télé. On parle pas ici de séries qui sont sorties sur Netflix, on parle pas de séries qui sont sorties sur Prime Video, sur Disney+. On parle vraiment de séries télé qui sont sorties à la télé. Vous savez la bonne vieille télé, le bon vieux câble qui existe encore, puis qu'il y a plein de canals là-dessus, là. Ben, c'est ça. On parle de séries qui passent à la télé, qui passent sur le câble, des séries qui jouent encore, d'autres qui ne jouent plus, mais qui sont pour maintenant la majorité également disponibles sur des plateformes comme Netflix ou Prime Video ou même Crave TV, parce que, ben, ils ne jouent plus à la télé, donc ces plateformes-là peuvent présenter ces épisodes-là. Par contre, il y a certaines séries qui passent simultanément à la télé et sur Netflix ou Prime Video. Donc, l'épisode va passer à la télé avant pour ensuite être présenté sur Netflix ou Prime Video ou Crave. J'ai pas Crave, mais je sais qu'il y a des séries qui passent sur Crave présentement. On a souvent parlé au cours des épisodes précédents de séries Marvel. On a également parlé de séries de La Guerre des Étoiles. On va même faire un épisode spécial, je le rappelle, épisode spécial Guerre des Étoiles, qui sera diffusé à partir du 4 mai 2022. Manquez pas ça, c'est super important, on va avoir du fun. On va démystifier tout ce qui est La Guerre des Étoiles, on va vous mettre ça en ordre. Et on va vous démêler dans tout cet univers flamboyant. Mais il y a un autre univers également qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé au cours des épisodes. On en a beaucoup parlé durant l'épisode, durant le tournoi du meilleur film de super-héros. Mais ça s'est pas mal arrêté là. On n'a pas reparlé de séries de cet univers-là. Et je parle de l'univers de DC Comics, qui s'appelle maintenant surtout, je pense que c'est DC Universe. Et tout ce qui est cinématographique et télévisuel, c'est le DC EU, pour faire un petit peu différent du MCU. Et que veut dire le DC EU? C'est le DC Extended Universe. C'était leur façon à eux d'expliquer que toutes leurs séries télé, tous leurs films sont reliés ensemble d'une certaine façon par un univers étendu. Bref, ils se l'ont joué facile en nommant ça comme ça, mais c'est pas grave, ça marche pareil. Donc, on parle aujourd'hui de séries télé de DC. Il y en a beaucoup. Il y en a eu plusieurs. Je ne parle pas ici des séries des années 80 ou des années 90 parce que c'était poche, disons-le comme ça. Je parle vraiment des plus récentes séries, là, disons 2010 à 2022. Des séries qui, pour la plupart, ont été présentées sur le canal CW, qui est un canal spécialisé américain, mais disponible avec Vidéotron et avec Bell. Avec Bell, je ne pourrais pas dire c'est quoi le package, mais avec Vidéotron, c'est le package Super Channel. Vous avez accès à ce moment-là aux canaux du CW, que ce soit le CW de Los Angeles ou celui de New York. Vous avez les deux. Donc, les émissions passent, c'est les mêmes émissions qui passent aux deux canaux, mais évidemment à un certain nombre d'heures de décalage horaire. Donc, la majorité de ces séries-là sont sorties sur CW. Et ça a commencé avec la série Arrow. Et ils ont appelé ça Arrow, mais ils auraient pu facilement appeler ça Green Arrow. Donc, c'est une série sur Green Arrow, qui est le personnage, disons, la version Hawkeye du DC. Hawkeye dans Marvel est un archer sans super pouvoir. Dans DC, Green Arrow est un archer sans super pouvoir, habillé de vert. Quelle surprise! Il s'appelle Green Arrow, il s'habille de vert, oulala. Bref, la série s'appelle Arrow, diffusée de 2012 à 2020, donc ça ne joue plus, la série est terminée. Par contre, vous pouvez regarder les saisons sur Prime Video, elles sont tous disponibles présentement. C'est 8 saisons, donc c'est quand même long, c'est un investissement. On va revenir avec quoi écouter, quoi pas écouter. Bref, Arrow, c'est Green Arrow. Donc, l'histoire d'Oliver Queen, sa transformation du rejeton riche et le petit enfant c'est à ses parents là, qui a tout pour lui, tout cuit dans le bec, il est riche, il a une maison gigantesque, un char, un bateau, tout. Il lui arrive quelque chose et au fil du temps, il finit par se transformer en super-héros. Il ne commence pas dans la série comme un super-héros, il commence comme, je dirais plutôt, un genre de... pas assassin, mais borderline. C'est une personne qui est très menée par un désir de vengeance. Faut écouter la série pour comprendre ce que je veux dire, évidemment. Je veux pas trop rien divulgacher. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit le mot divulgacher, donc voilà, divulgacher, je viens de le dire 3 fois. Arrow, donc... Oliver Queen se transforme en Green Arrow. On voit vraiment durant la série toute l'évolution du personnage. Donc un personnage très sombre au début, très solitaire, qui finit en bout de ligne par être quasiment le leader d'une équipe complète de super-héros. Il devient le mentor de plusieurs nouveaux super-héros qui ont eu leur propre série dont on va parler. Donc c'est vraiment ça, Arrow. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vaut la peine d'être écouté? Je dirais oui. Les 3 premières saisons, même les 4 premières saisons, sont vraiment très, 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 très bonnes. D'excellent, un excellent début de série. Ça part très fort, hyper captivant. Super de bons scénarios, bien écrit, un jeu d'acteurs fantastique. Mine de rien, la série a eu, à travers les saisons, 89 nominations pour des prix. Il a gagné 22 prix au total au cours des 8 saisons. Quelques-uns des prix qu'ils ont gagnés. Meilleure cinématographie pour une émission dramatique de télé. Meilleur acteur pour une série de télé. Meilleur héros pour une série de télé. Meilleur choix d'acteur. Bref, ce genre de prix-là au cours des années. C'est pas pour rien qu'ils gagnent des prix. C'est une très bonne série, bien écrite. Cependant, comme la majorité des séries à travers le monde, la qualité s'en va un petit peu en dégradant. Donc, saison 5, saison 6, saison 7, pas facile à écouter. Le beat ralentit beaucoup. On tombe beaucoup dans du réchauffé, dans du déjà vu au cours des prochaines séries, des saisons précédentes. On voit que les scénaristes ont eu de la misère à trouver du nouveau matériel, et c'est triste. C'est vraiment triste parce que la série est tellement bonne que tu as envie d'aller jusqu'au bout. Mais à cause de ces 3 saisons-là, ce fut, pour ma part, difficile à me rendre jusqu'au bout. Cependant, je suis excessivement content d'être allé jusqu'au bout parce que la 8e et dernière saison est une excellente saison. C'est vraiment une saison qui boucle la roue au grand complet de la série. Beaucoup de flashbacks par rapport aux saisons précédentes. Beaucoup de personnages qu'on a vus au cours des saisons qui reviennent dans cette dernière saison-là. Ça a vraiment bien fermé la boucle pour Arrow. Donc, 4 premières saisons fantastiques. Saison 5, 6, 7. écoutez-les, mais tu sais, skippez, là. Essayez de trouver quelques épisodes clés. Pas besoin de tout écouter les saisons complètes parce que, sincèrement, c'est parfois très long. Mais écoutez au moins jusqu'à... Oui, rendez-vous au moins jusqu'à la 8e. Écoutez la 8e jusqu'au bout. Donc, 1, 2, 3, 4 et 8, c'est les saisons à écouter pour Arrow, si jamais ça vous intéresse. Les acteurs qui jouent, pour n'en nommer que quelques-uns, Stephen Amell dans le rôle d'Oliver Queen, dans le rôle de Green Arrow. Stephen Amell, vous l'avez sûrement vu dans la série qu'il joue présentement, je pense qu'elle passe à Crave, je ne suis pas certain, Heels, qui est une excellente série. C'est lui qui joue également le rôle de Casey Jones dans les Ninja Turtles 2, le film refait par Jerry Bruckheimer, qui est pif paf explosion, effets spéciaux ultra. C'est lui qui joue Casey Jones dans ce film-là. Donc, si jamais vous savez pas trop c'est qui Stephen Amell, allez faire un petit tour sur les Tortues Ninja numéro 2. Pas le classique, mais le remake de Jerry Bruckheimer. Ou de Michael Bay. En tout cas, bref, un des deux. Ma vedette également David Ramsey, dans le rôle de John Diggle, qu'on a vu dans le film Draft Day, qui a joué dans plusieurs épisodes de Dexter et dans plusieurs épisodes de Blue Bloods. Ma vedette également Emily Beth Richards, un petit peu moins connue. Ça a été un de ses premiers gros rôles. Elle a joué dans le film très indépendant de Brooklyn, un autre film indépendant Funny Story, et un nouveau film indépendant qui sort prochainement, We Need to Talk. Donc, beaucoup d'indépendants, peu connus, mais elle joue pratiquement dans les 8 saisons de Arrow. Cathy Cassidy, également, qui a joué dans le film Click avec Adam Sandler, qui a joué également dans Freddy, la version de 2010 du film d'horreur de Freddy. Et elle a joué le rôle de Ruby dans la série Supernatural. Donc, ceux qui connaissent la série Supernatural, vous vous souvenez du personnage de Ruby. C'est Cathy Cassidy qui jouait ce personnage. Également vedette Willa Holland, qui joue le rôle de la sœur de Oliver Queen. Elle, on l'a vu dans le film Legion et dans la série Gossip Girl. C'est également elle qui fait la voix de Aqua dans les nombreux jeux de Kingdom Hearts, donc pour les gamers de ce monde. Aqua est jouée par Willa Holland. Et également Cathy Lotz, qui joue le rôle de la première version du Black Canary. Elle est également pas très connue au niveau cinéma ni au niveau série, beaucoup de trucs indépendants. Elle a joué dans The Machine et dans The Pact, qui est deux films indépendants des années 2012-2013. Ma note pour moi pour Arrow, c'est un solide 8 sur 10. Sincèrement, les seules raisons pour lesquelles je ne peux pas donner plus haut, c'est à cause des saisons 5, 6 et 7 qui ont vraiment dégradé en matière de qualité. Je recommande beaucoup à tous d'écouter Arrow, allez faire un tour sur Prime Video, écoutez au moins la saison 1, si vous accrochez, tant mieux. Si vous accrochez pas, ben c'est pas plus grave que ça, on passe au suivant. Parlant de suivant, dans Arrow, on présente également, je crois durant la saison 2, un nouveau super-héros de DC, encore une fois, qui va se retrouver avec sa série à lui-même. Je parle de The Flash, donc le speedster, le gars habillé en rouge qui... court excessivement très vite, donc de Flash qui a commencé en 2014 et qui joue encore présentement, 8 saisons présentement, on est à la 8e, la 9e saison a été confirmée, ça passe également présentement au CW, mais c'est une des séries qui est diffusée simultanée sur Netflix, donc à chaque semaine sur Netflix, on a un nouvel épisode. Je crois qu'il sort le mercredi parce que les épisodes jouent le mardi au CW. Donc, quand l'épisode est sorti à la télé, l'épisode sort sur Netflix par la suite. Donc, vous pouvez aller voir sur Netflix The Flash, qui a quand même remporté 29 prix sur 90 nominations. Donc, encore plus que Arrow. Certains de ces prix-là, meilleure actrice de support dans une série de télé, meilleure adaptation de super-héros à la télé, meilleur effet visuel, ce genre de prix-là, donc c'est quand même des beaux prix qu'ils ont gagnés. La série de Flash, qu'est-ce que c'est? Ben, un petit peu comme pour Arrow, c'est une origin story sur le personnage de Flash, sur Barry Allen, qui est le nom du personnage. Donc vraiment l'évolution, encore une fois, de Barry Allen en Flash du début à présentement que la série continue. Barry Allen qui a vraiment commencé comme un simple détective, un CI dans le fond. Là, que si vous connaissez la série CSI, vous savez c'est quoi un CI. Donc, il commence sa carrière, c'est ça. Et à travers ça, il devient le super-héros de Flash et veut protéger sa ville, veut protéger ses amis, veut protéger la femme qu'il aime, évidemment, Iris. Et à travers tout ça, on rencontre d'autres personnages, d'autres super-héros de DC. On rencontre vraiment beaucoup de super-héros DC dans cette série-là. Que ce soit The Atom, que ce soit Elastic Man, Vibe, et plein d'autres. J'en passe tout plein parce qu'il y en a vraiment beaucoup, énormément de vilains également. Tout comme dans Arrow, qui a vraiment une bonne panoplie de vilains. Arrow, par contre, leurs vilains sont très, très, très beaucoup tirés de l'univers de Batman. Mais c'est pas grave, on embarque pareil. The Flash, c'est vraiment plus concentré sur ses vilains propres à lui. Donc, on a Reverse Flash, on a Zoom, on a Captain Cold, on a Heatwave, on a The Tinker. On en a vraiment une grande panoplie. Beaucoup de super-héros aussi, un petit peu... pas super-héros, mais beaucoup de super-vilains moins connus, plus low profile, mais quand même très divertissants les uns les autres. La différence avec The Flash puis Arrow, Arrow se voulait plus vraiment une série super-héros dramatique, avec certains tons humoristiques. The Flash est vraiment plus une série super-héros action-comédie. Un petit peu de drame de temps en temps, ça en vaut la peine, toute série a besoin d'avoir un petit peu de drame, mais c'est vraiment plus une série d'action-comédie. Vraiment le fun à écouter, vraiment léger à écouter, ça s'écoute super bien. C'est une des séries que j'aime le plus. Encore une fois, les 4 premières saisons très solides, mais encore une fois, je crois que c'est très typique des scénaristes du CW, une perte de qualité au niveau de la saison 5, de la saison 6, de la saison 7. La saison 8 vient de commencer, pas si pire présentement la saison 8, j'aime bien, j'embarque, je la trouve meilleure que les autres, mais encore une fois, saison 5, 6, 7, difficile pour The Flash. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé. Saison 6 et 7 ont été beaucoup affectées par la pandémie. Elle a dû être coupée à plusieurs endroits. Ça paraît, ça lui a fait mal. Mais n'empêche, ça reste très divertissant. On continue de rester accroché. On continue d'aimer les personnages. On aime ça les voir, on aime ça leur interaction en eux. Un excellent scénario également pour la majorité du temps. Je crois que ce qui a fait mal beaucoup à la série, c'est au niveau des vilains, ce qu'on appelle le Big Bad, donc le gros master vilain de chaque saison. Saison 5, 6, 7, très faible, très 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 faible comme gros vilain. Et je pense que c'est ça qui est venu faire mal à la série. Je me souviens que mon co-animateur Bracken Frog, durant le tournoi, avait déjà mentionné qu'un bon film de super-héros fonctionne grâce à son vilain. Donc, un bon film de super-héros se doit d'avoir un bon vilain. C'est le même principe pour une série télé. La série est bonne si le vilain est bon, si le vilain est intéressant à écouter. Ce qui n'a pas été le cas, et pour Arrow, et pour Flash, dans la saison 5, 6, 7. Des vilains peu de saveur, et ça l'a rendu malheureusement ces saisons-là monotones et un peu plates à écouter. Néanmoins, beaucoup plus de plaisir à écouter les saisons de The Flash que de Arrow. Je parle encore une fois de la saison 5, 6, 7. Très coloré comme série. Très bonne musique. Comme je dis, vraiment beaucoup de personnages super intéressants. Si j'ai à vous conseiller entre Arrow et Flash, je vous conseillerais plus vers The Flash. À moins que vous soyez vraiment un grand fan de DC, un grand fan de super-héros et que vous voulez vraiment écouter toutes les séries, allez-y pour Arrow. Go for it, c'est une très bonne série. Mais si vous n'êtes pas très sûr, puis que vous voulez peut-être juste vous initier un petit peu à l'univers de DC, ou à écouter une nouvelle série de super-héros disponible, allez-y pour The Flash. Sincèrement, là, c'est ma suggestion personnelle pour toutes les séries que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment The Flash. Donc, disponible sur Netflix, comme je dis, 8 saisons, met en vedette vraiment beaucoup d'acteurs, mais des acteurs plus ou moins connus, certains plus que d'autres. L'acteur qui joue de Flash est Grant Gustin, qui a été connu dans la série Glee. Donc si vous avez vu Glee, G-L-E-E, la série qui a passé à Fox dans une école secondaire, puis ça chante, c'est une genre de comédie musicale. Grant Gustin a commencé là. C'est pas mal tout ce qu'il a fait. Il a fait des petits trucs indépendants, des petites apparences ici et là dans différentes séries, mais principalement, il est connu pour Glee. L'actrice qui joue Iris, qui est la femme de Barry Allen, Candace Patton, également très low profile, beaucoup d'indépendants, beaucoup d'apparences ici et là dans des séries diverses, mais tu sais, rien de concret, rien de constant. Elle a joué dans le film The Game. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Moi, ça me dit pas grand-chose, mais elle a joué là-dedans. L'autre actrice un petit peu plus connue, Danielle Panabaker, qui joue le rôle de Caitlin Snow, qui... Non, je vous dirai pas qu'est-ce qu'elle devient. Ce serait divulgâcher quelque chose de majeur. Mais Danielle Panabaker, qui a joué dans le film la version de 2009 de Vendredi 13, et dans l'excellent film d'horreur Piranha 3DD, parce qu'il y a eu Piranha 3D, mais il y a eu également Piranha 3DD. Si vous voulez écouter un bon film d'horreur complètement ridicule, Piranha 3DD, ça vaut la peine. Danielle Panabaker a joué dans ce film. Mais en vedette également Jesse L. Martin, un petit peu plus connu. Lui, il a joué dans Rent, plusieurs épisodes de Law & Order, et il a joué également dans la bonne vieille série Ally McBeal. C'était le fun, ça, Ally McBeal. Il joue un personnage dans Ally McBeal, donc vous allez le reconnaître. Carlos Valdez, qui joue le personnage de Vibe, vraiment très, très, très peu connu. Beaucoup dans l'indépendant également. Beaucoup de voice-over, beaucoup de petites apparitions dans certaines séries ici et là, mais rien de majeur. Et Tom Cavanagh, qui lui a joué dans la série Ed et dans la série Scrubs. Donc, The Flash, c'est un solide 8.5 sur 10. J'aime vraiment beaucoup The Flash. Je le conseille vraiment fortement à tout le monde, disponible sur Netflix. Une autre série qui est sortie et qui est sortie également du lot de Arrow et de Flash, parce que cette série-là a repris plusieurs personnages secondaires qui sont apparus dans ces deux séries-là. Je parle de la série Legend of Tomorrow. Série qui a commencé en 2016, donc Flash a commencé en 2014, 2 ans après Arrow, Legends a commencé 2 ans après The Flash, donc il est allé vraiment chercher des personnages secondaires de ces deux séries-là pour créer cette nouvelle équipe qui s'appelle The Legends of Tomorrow. Ça joue encore, on est présentement à la 7e saison, il y a une 8e saison de confirmée, ça passe également au CW, mais ça passe également au Canada sur CTV, Sci-Fi. Donc, pour ceux qui ont le cœur, vous le savez, CTV a divisé ses branches. Il y a CTV Mystery, CTV Drame, CTV Sci-Fi. Il y a plusieurs CTV maintenant. Legends passe sur CTV Sci-Fi pour ceux qui l'ont. Sinon, c'est sur le CW. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, sincèrement, je ne saurais pas quoi vous dire parce qu'il n'est pas disponible sur Netflix, il n'est pas disponible sur Prime Video. Peut-être sur Crave, comme je n'ai pas Crave, je ne peux pas confirmer s'il est disponible, mais peut-être que vous seriez chanceux et le voir sur Crave TV. Donc je disais cette saison, 28 nominations, ce qui est quand même pas si mal, 7 belles victoires, dont le prix pour meilleur costume et meilleur maquillage. Donc. Et je comprends pourquoi ils ont gagné ces prix-là. Legends of Tomorrow, qu'est-ce que c'est? Ben c'est justement, c'est une équipe de misfits, une équipe d'anti-héros, disons, plein de personnages secondaires des deux autres séries qui sont allés chercher pour créer justement une nouvelle équipe. C'est des héros qui n'ont tellement pas d'importance au niveau de la ligne du temps de cet univers qu'ils ont été retirés de cette ligne du temps pour protéger la ligne du temps. Donc c'est le principe de Legend of Tomorrow, c'est des anti-héros qui se promènent avec l'aide d'un vaisseau spatial temporel qui se promène à travers le temps pour régler des problèmes qui, à travers toute la ligne du temps de cet univers-là. Ça a quand même commencé très très fort. 2 très bonnes saisons. Même si certains personnages restaient à désirer, je parle ici surtout de la saison 1 avec le personnage de Hawk Girl et Hawkman. Qui sont pourtant 2 super bons personnages de l'univers de DC, mais ils ont mal été interprétés dans cette série-là. Ils ont été mal apportés, mal écrits. et c'était décevant. C'était les personnages, à mon avis, les plus plates de la saison 1. Et malheureusement, la saison 1 est pratiquement centrée sur ces personnages-là. Donc ça, pour moi, ça m'a déçu un petit peu. Par contre, les autres personnages sont très, très, très intéressants, très le fun à écouter. Donc, Katie Lotz, qui était dans Arrow, revient dans Legend of Tomorrow avec son rôle de maintenant White Canary. Donc, elle est passée de Black à White. Vous pouvez faire votre propre idée sur pourquoi. Personnage également de Heatwave, qui est un méchant dans Flash, qui devient un, entre guillemets, super-héros, vraiment plus un anti-héros, qui est joué par Dominic Purcell. Dominic Purcell, qui est connu surtout pour son rôle dans Prison Break, ainsi que son grand ami Wentworth Miller, qui également était dans Prison Break, donc c'était les deux frères dans Prison Break. Lui joue le rôle de Captain Cold, donc un vilain dans The Flash, qui est pris également pour faire partie de cette équipe-là. Donc le concept super intéressant de mélanger des héros et des vilains pour former une équipe, pour protéger la ligne du temps, le concept est bon, le concept est intéressant. La saison 1 était quand même très très bonne, malgré, comme j'ai mentionné, les petits hics de certains personnages. Le scénario était quand même très bon, l'intrigue était bonne. Saison 2, très très forte saison 2. Saison 3, encore une fois, on dénote une certaine dégradation, mais une dégradation un peu différente. Je m'explique, dans Arrow et The Flash, je parle d'une dégradation de qualité. Dans Legends, c'est pas nécessairement une dégradation de qualité, mais c'est vraiment, ça a comme vraiment passé de comédie action dramatique à comédie burlesque. Legends of Tomorrow est vraiment rendu une série complètement loufoque. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est ce qui fait que la série est, entre guillemets, bonne. Moi, je continue de l'écouter. Je trouve ça divertissant. C'est pas une excellente série, mais c'est divertissant. Ça passe le temps. Et la raison qu'on est rendu maintenant à cette saison, c'est que justement, les fans ont commencé à aimer ce concept-là de burlesquerie, de loufoquerie. C'est vraiment complètement ridicule. Je vous donne des exemples de pourquoi c'est rendu super ridicule. Il y a une saison où ils doivent protéger la ligne du temps de certains personnages historiques qui se sont échappés de l'enfer. Donc, ils doivent retourner genre en Russie pour... Je me souviens plus du matin. C'est un vilain historique russe. Je pense même qu'il y a Adolf Hitler dans le tas, à un moment donné. Il y a vraiment des gros personnages historiques connus, mais vraiment des gros méchants historiques connus de la réalité. C'est même pas des super vilains, là. C'est vraiment juste des vilains humains qui ont tellement été méchants, qui se sont retrouvés en enfer, et que là, ils s'échappent à travers le temps et ils doivent aller les recapturer. Un peu loufoque, un peu débile. Une autre saison où c'est des créatures mythiques qui se sont retrouvées à travers le temps, donc ils doivent aller recapturer ces créatures mythiques-là. Il y a une autre saison où c'est des extraterrestres qui se sont retrouvés sur la planète à travers le temps et on doit aller rechercher ces extraterrestres-là pour protéger le temps. Vous pouvez voir un petit peu c'est quoi le concept maintenant. C'est maintenant rendu que ça. Par contre, ce qui est plaisant, c'est qu'étant donné que c'est une série d'histoires, disons, parce que ça se passe à travers le temps, les costumes jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est la raison pour laquelle ils ont gagné un prix pour meilleur costume. De très très beaux costumes, ça je dois leur donner. Le visuel est sublime dans cette série-là. Ils portent vraiment beaucoup attention aux détails justement de qu'est-ce que les gens portaient à telle époque, à quoi ressemblait une ville à telle époque. Ils ont vraiment beaucoup mis de détails là-dessus, donc pour ça, chapeau, c'est vraiment bien réussi. Est-ce que ça vaut la peine de l'écouter? Non, vraiment pas du tout. C'est sympathique. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, si vous avez justement CTV Sci-Fi et que vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y, go for it. Vous allez avoir du plaisir quand même. Si vous avez CW, tant mieux, écoutez-le, go for it. Mais si vous avez ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas perdant. Vous ne manquez pas grand-chose en tant que tel. C'est sympathique comme série, c'est agréable, c'est drôle à l'occasion, c'est très loufoque. mais c'est vraiment pas essentiel à votre culture générale. Donc on peut passer. Ma note pour moi, c'est un 6.5, justement parce que ça l'a viré un peu trop à mon goût, au ridicule. J'aurais aimé ça qu'on garde un petit peu un semblant de sérieux dans cette série-là. Ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant, surtout avec les nombreux personnages qu'on peut voir dans cette série-là. Ça aurait été beaucoup plus fun, qu'ils se prennent un petit peu plus au sérieux tout le temps. Mais ça l'a viré d'une autre façon. J'ai un petit peu moins aimé, mais je continue de l'écouter parce que c'est sympathique. Un 6.5 pour Legend of Tomorrow, disponible sur le canal CW et CTV Sci-Fi. Une autre série qui a été apportée par toutes ces séries-là, donc ça a vraiment créé un genre qu'ils ont appelé le Arrowverse. Donc c'est vraiment toutes des séries qui ont été créées à cause de la série de Arrow. Et là, je parle ici d'une série, d'un personnage particulièrement très, 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 très connu dans l'univers de DC. C'est la cousine de Superman, la série Supergirl, qui est sortie encore une fois sur le CW, mais qui est également disponible sur Netflix. Donc ça, c'est une série que vous pourrez aller chercher sur Netflix si ça vous tente. 6 saisons de Supergirl de 2015 à 2021. Quand même 48 nominations, c'est quand même pas si mal. 14 victoires, ce qui est quand même beaucoup. Dont meilleure série de super-héros, meilleure actrice. Meilleure actrice revient vraiment beaucoup au niveau des prix gagnés par cette série-là. L'actrice, justement, qui joue Supergirl, c'est Melissa Benoist. Ça se lit Benoît, mais croyez-moi, ça se dit Melissa Benoist. Elle a été connue également comme Grand Gust dans la série Glee. Et beaucoup d'indépendants, beaucoup de séries indépendantes, de films indépendants. C'est vraiment son premier méga gros rôle et elle a gagné de nombreux prix pour ça. D'autres actrices vraiment moins connues, Kyle Lee qui joue sa sœur, pas sa sœur biologique, mais sa sœur terrestre. Kyle Lee qui a joué dans la série Grey's Anatomy. On a aussi David Harewood qui joue le rôle de John Jones ou... Pour ceux qui ne savent pas qui est John Jones, c'est le Martian Manhunter. Lui a joué dans Homeland, donc ceux qui ont connu Homeland, vous allez reconnaître David Harewood. Kitty McGrath, qui joue le rôle de Lena Luthor, donc la sœur de Lex Luthor. Elle a joué dans Jurassic World, elle a joué également dans la série Merlin. On a également Mekad Brooks, qui lui a joué dans... la toute dernière version de Mortal Kombat, c'est lui qui jouait Jax. Il l'a joué également dans True Blood et dans Desperate Housewives. C'est lui qui joue le rôle de Jimmy Olsen dans la série Supergirl. Et on a également Calista Flockhart qui est Ally McBeal dans la série Ally McBeal. Donc si vous avez connu Ally McBeal, vous savez qui est Calista Flockhart. Elle joue principalement dans la première saison, mais elle refait certaines apparences au courant de la série. Que dire de Supergirl? Ben, encore une fois, c'est une origin story, disons, du personnage de Kara Danvers, qui est Supergirl, et l'évolution du personnage dans cet univers-là. Sincèrement, je pourrais encore expliquer plus, mais toutes les séries de DC se ressemblent. C'est le même concept, c'est un origin story, donc c'est l'héroïne qui évolue dans son univers et qui devient une héroïne en termes clairs. Ce qui est différent de Supergirl, c'est son petit côté, et là je parle pas du personnage, je parle de la série en général, un côté vraiment beaucoup plus féfille. C'est ce qui en a déçu vraiment beaucoup les gros fans de super-héros. Était quand même content de voir cette série-là. Pour ma part, j'avais hâte de voir cette série-là. La première saison, les premiers épisodes, c'est très, 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 très fifille. Mais je vous dirais qu'après le peut-être cinquième épisode, là, j'ai accroché. Là, ils ont vraiment pris un tournant beaucoup plus intéressant, beaucoup plus super-héros, beaucoup plus mature, entre guillemets. Ils ont lâché un petit peu le côté fifille, et ça, j'étais content. Donc, ça a le fait que la saison 1 est une excellente saison. Saison 2, excellente saison. Mais, comme d'habitude, comme toutes les autres séries du CW, une énorme dégradation au niveau de la qualité de la série. Supergirl est vraiment devenue la série super-héros fifille plus plus. Oh mon Dieu, que tout le monde braille dans cette série-là. C'est une série où tout le monde parle. Ah, l'amour gagne tout, l'amour vainc tout. Faut s'aimer, faut s'entraider. Et ça devient vraiment gossant à la longue. Oh my God! J'ai eu énormément de difficultés à terminer cette série. J'ai voulu la terminer parce que ben, j'étais un petit peu entêté et je continue d'avoir espoir que ça s'améliore, qu'il y ait une bonne saison, un petit peu comme pour Arrow et The Flash, qu'on repogne une saison vraiment enlevante. Je n'ai pas eu ça malheureusement. Je vous dirais qu'à partir de la saison 3, comme je dis, Supergirl c'est 6 saisons, donc les 4 dernières saisons, particulièrement pénibles, particulièrement décevantes. Je vous dirais que ce qui m'a permis de continuer jusqu'à la fin, c'est l'apparition du personnage de Lex Luthor, qui est joué par, mon Dieu, le nom m'échappe complètement, mais c'est l'acteur qui jouait dans Two and a Half Men, l'un des deux frères, le frère le plus idiot, à vrai dire. C'est lui qui joue le rôle de Lex Luthor, et il l'a à la perfection, à mon avis. C'est le meilleur Lex Luthor que j'ai vu dans toute série, film confondu de Superman. Je suis même prêt à dire qu'il est meilleur que Gene Hackman dans les tout premiers films de Superman. Il l'a vraiment très très bien. Il a gagné un prix d'ailleurs pour ça. Donc c'est ce personnage-là qui m'a permis de continuer d'écouter la série jusqu'au bout. Parce que sinon, c'était rendu vraiment trop fifi. Si vous avez des enfants de bas âge, si vous avez en plus des jeunes filles et vous voulez les initier au monde de super-héros, Supergirl est une bonne série pour ça. Là, je vous le conseille fortement. Écoutez-le avec vos enfants, écoutez-le avec vos jeunes filles. C'est une très bonne série. Ça va leur amener, à mon avis, quand même de très bonnes valeurs. Ça va leur montrer qu'une fille est capable d'être une super-héroïne. Mais vous allez vite voir que ça tourne vraiment beaucoup à l'eau de rose, aux petites histoires d'amour ici et là, qui sont à mon avis complètement inutiles pour cette série-là, mais bon, ils ont voulu aller là, ils ont voulu faire à leur tête, sans trop écouter ce que les fans demandaient, tant pis pour eux. Parce que ça a été cancellé, ça ne levait plus du tout, l'histoire n'était plus là, donc ils ont complètement annulé le show après un gros 6 saisons. C'est sincèrement tout ce que j'ai à dire pour Supergirl. Ma note à moi, c'est un 5.5. Ça a commencé fort, j'avais beaucoup de motivation, j'avais beaucoup d'espoir, mais ça a crashé très rapidement. Une autre série qui n'a pas mérité mon attention, mais pas du tout. Encore une fois, une série sur le CW qui est également disponible présentement sur Netflix. La série a été annulée après 4 saisons. De 2017 à 2021, 17 petites nominations, une seule victoire pour Outstanding TV Drama, mais ça a été gagné au prix Black Reel, donc c'est vraiment, et je m'en vais un petit peu vers ce sens-là sans vouloir porter du jugement raciste, vous me connaissez, loin de là, mais c'est vraiment une série africaine-américaine. Ce n'est que des Africains-Américains dans cette série. Il y a peut-être un blanc, mais c'est vraiment une série principalement sur la communauté noire. Black Lightning est un super-héros noir, donc Jefferson, qui est un professeur, dans le fond, dans une école, dans un quartier en difficulté. Il était un super-héros à l'époque. Il a accroché son manteau de super-héros pour s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants, devenir professeur. Et là, ben, force est d'admettre qu'il n'a comme pas le choix de revenir à sa racine de super-héros. J'ai écouté les 5-6 premiers épisodes de la saison 1 et je me suis emmerdé royalement. Pas d'action, zéro action ou très 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 peu d'action dans cette série-là. Ce n'est que du blabla, ce n'est que du drame de on vit dans un quartier défavorisé, il y a de la criminalité, ça va donc ben pas bien dans notre univers, ce n'est que ça. Et oh, une fois de temps en temps, Black Lightning sort, pif paf, deux, trois claques à un méchant, puis ça finit là. Ce n'était pas du tout entraînant, ce n'était pas du tout captivant. J'ai complètement arrêté d'écouter cette série-là. Et pour lire les critiques qui ont suivi au fil des autres saisons, je ne regrette absolument rien. Les critiques ont été mauvaises. Ce n'est pas une bonne série télé à écouter, ce qui est très décevant parce que Black Lightning est un super-héros très intéressant à écouter. Mais la série n'est malheureusement pas bonne. Et je suis personnellement surpris que ça soit rendu à 4 saisons. J'aurais personnellement annulé ça avant. Mais ils ont réussi à se rendre à 4 saisons. Faut croire qu'il y avait quand même un certain auditoire durant un certain temps, mais force est d'admettre qu'ils ont dû se rendre compte que ça pognait pas du tout. Je vais vous nommer certains acteurs, mais ils ne sont pratiquement pas connus. C'est encore beaucoup d'acteurs, de séries indépendantes, de films indépendants. Le personnage principal est joué par Cress Williams, qui a joué dans Friday Night Lights. Sa femme est jouée par Nefessa Williams, qui je crois est également sa femme ou sa sœur, je ne suis pas certain. Elle a joué dans Twin Peaks et dans Cold Black. Kristen Adams, qui a un tout petit rôle dans Batman Begins et dans Tron Legacy. Et China Ann McLean, qui joue une de ses filles, qui elle est surtout connue pour les films Descendants 2 et 3 de Disney. Donc, Descendants, une série de les descendants des super vilaines du monde de Disney. Elle était connue dans cette série-là. Donc, vraiment très, très peu connue. Très peu d'acteurs connus. Ça l'a peut-être pas aidé non plus à la série. Un personnage de super-héros peu connu avec des vilains très peu connus. Et ils ont basé ça vraiment plus sur les difficultés que certaines personnes vivent dans des quartiers où la criminalité est très forte. Ils ont comme pas joué les bonnes cartes, à mon avis. Pour ma part, c'est un 4 sur 5 pour Black Lightning. Excessivement décevant. C'est disponible sur Netflix, mais honnêtement, je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout. Une autre série que je déconseille très fortement, et ça me brise le cœur, Batwoman. On parle du monde ici de Batman. Vous me connaissez, vous savez que c'est un monde que j'ai beaucoup à cœur, que j'adore. J'étais tellement excité par cette série. J'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec Batwoman. Mon Dieu que c'est raté. Oh my God que c'est complètement raté. Et c'est décevant d'avoir un univers aussi riche que Gotham City et tous ses vilains. Pas être capable de faire quelque chose qui se tient. C'est une déception monumentale. On est présentement à la 3e saison et le show est annulé. Ça s'arrête à 3 saisons. Ça a commencé avec l'actrice Ruby Rose qui jouait le personnage de Kate Kane, qui est Batwoman. À mon avis, Ruby Rose l'avait vraiment très bien. Elle jouait une très bonne Kate Kane. C'était la raison pour laquelle j'ai écouté la saison 1 au complet. Je la trouvais excellente, je trouvais qu'elle présentait bien le personnage. Malheureusement, Ruby Rose a eu des problèmes avec la scénarisation, avec la production et d'autres problèmes dans sa vie personnelle. Elle a dû quitter le show et entre à la saison 2 le personnage, l'actrice Javicia Leslie qui joue une nouvelle Batwoman. Ce n'est même plus Kate Kane. Le CW a créé de A à Z un nouveau personnage pour incarner Batwoman. Et sincèrement, CW ne devrait en aucun cas essayer d'inventer des personnages parce qu'ils ne sont pas bons. Ah, qu'ils sont pas bons. Voilà, je suis un peu fâché. J'ai vraiment été fâché par cette série-là. Le vilain, encore une fois, la série est faite par son vilain. Très, très, très mauvais vilain. C'est le personnage de Alice, qui est en tant que telle la sœur de Kate Kane, qui a viré méchante pour X raisons, qui est expliquée dans la série. Mais elle est beaucoup trop présente. C'est tout le temps elle. Ce n'est qu'un conflit avec elle, tout le temps, à la saison 1, à la saison 2 et à la saison 3. C'est encore elle. On est tanné, je suis plus capable de voir ce personnage-là, et il continue de nous le mettre d'en face. Ah, que je suis tanné. D'autres personnages qui jouent également, Rachel Skarsten, qui joue justement le personnage de Alice. Elle, on l'a vu dans 50 Shades of Grey. Ouh là là, 50 Shades of Grey, ça fait pas d'elle un bon actrice, ça fait pas d'elle un bon personnage, malheureusement. Elle a joué également dans Last Girl, et elle a joué en tout premier dans Birds of Prey en 2002. Donc la série Birds of Prey, c'est elle qui jouait le Black Canary dans cette série-là. Mais son personnage est pas bon. C'est très décevant. Megan Tandy qui joue l'une des policières. Complètement sans saveur. Gossante. Mauvais jeu d'actrice. Je m'excuse. C'est peut-être une bonne actrice dans la vraie vie, mais dans ce show-là, très mauvais jeu d'acteur. Camrish Johnson, qui n'a rien fait de particulier dans sa carrière, à part beaucoup de l'indépendant, joue le rôle du fils de Lucius Fox. Nicole Kang également, rien de particulier au niveau de sa carrière, elle joue le rôle de leur ami docteur. De nombreux personnages sans saveur, qui sont gossants, qui nous ramènent tout le temps les mêmes dramatiques à chaque épisode. C'est la même histoire à chaque fois, c'est les mêmes problèmes d'épisode en épisode en épisode en épisode. On dirait que c'est un seul épisode étiré en trois saisons. C'est langoureux, c'est décevant. N'écoutez pas Batwoman, pour l'amour de Dieu. Je lui donne un 1.5 sur 10 simplement pour l'univers de Gotham, parce que j'aurais pu facilement dire un gros fat zéro. N'écoutez pas Batwoman, s'il vous plaît. Épargnez-vous ça. Prochaine série. Stargirl, qui est présentement sur le CW, mais également sur Prime Video. Les deux saisons sont sur Prime. La troisième saison s'en vient prochainement sur le CW. Série très nouvelle. Ça a commencé en 2020, donc c'est tout récent. Deux petites nominations, mais sur ces deux nominations-là, ils ont une victoire. Ils ont remporté le prix pour meilleure jeune actrice, meilleure performance pour une jeune actrice. Cette jeune actrice, c'est Breck Bessinger. Ce n'est pas la fille de Kim Bessinger. Vraiment, ne pas confondre avec rien. Ça. Donc, Breck Bessinger, qui joue le rôle de Stargirl, son premier rôle officiel. Elle le joue très bien. J'aime vraiment beaucoup la série Stargirl. C'est jeune, c'est rafraîchissant, c'est nouveau. Ça nous amène des personnages de DC qu'on n'a pas vus encore. Des personnages de DC qui étaient très connus au niveau des années 50. Donc la première Justice League, c'est la Justice Society of America. C'est vraiment basé sur ces personnages-là. Donc on voit très brièvement Green Lantern. On voit Solomon Grundy dans Les Méchants. Les autres noms ne me viennent pas, mais non, honnêtement, Stargirl, c'est rafraîchissant. Donc c'est une jeune qui reprend le pouvoir du premier Starman qui est décédé. Donc sa canne magique choisit cette jeune fille-là pour être la nouvelle Stargirl. Et bien, encore une fois, c'est une origin story, donc on la suit dans ses aventures de super-héroïne. Deux acteurs très 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 connus dans cette série-là. Amy Smart, qui joue la mère justement de Stargirl. Amy Smart, on l'a connue dans Scrubs, on l'a connue dans Felicity. Elle a également un rôle dans Starship Troopers. C'est une très bonne actrice. Elle joue bien son rôle de maman. J'aime vraiment beaucoup cette actrice-là. Luke Wilson, qui est le frère de Owen Wilson, évidemment, qu'on a vu dans Old School, qu'on a vu dans Zombieland Double Tap. On l'a vu également dans That 70 Show. Excellent acteur. Il joue le père adoptif de Stargirl, mais également, il joue également lui-même un super-héros sans être un super-héros. Écoutez la série pour le savoir. Je vois le temps passer, donc j'accélère un petit peu. Je m'excuse, j'explique pas tout. Mais Stargirl, très bonne série. Comme je dis, c'est des jeunes, ça se passe au secondaire. Ils apprennent en bon adolescent à être des super-héros. Donc ça amène une nouvelle vision d'un super-héros, donc on oublie les super-héros adultes et matures, on y va vraiment vers des super-héros adolescents et immatures, qui leur amènent évidemment beaucoup de problèmes. Donc, Stargirl, disponible sur Prime Video, les deux premières saisons. Si vous avez le CW, ben vous allez pouvoir écouter la saison 3 qui commence généralement fin avril, début mai d'habitude. Je crois qu'elle passe aussi soit sur Showcase ou sur CTV Sci-Fi. Mais bref, faites une petite recherche de votre côté. Stargirl, je le recommande. Pour moi, c'est un 7.5 sur 10. Comme je dis, c'est rafraîchissant, c'est simple, c'est pas lourd. Il y a de l'action, il y a de la comédie, il y a du drame. Un petit peu comme The Flash, mais plus jeune. Voilà, c'est ça. Stargirl, je le recommande beaucoup, 7.5. Si vous avez la chance de l'écouter, go for it. L'autre série que je vais parler un petit peu plus en détail, c'est une nouvelle série qui a commencé en 2021. On est rendu à la deuxième saison. Elle passe présentement sur le CW et sur CTV Sci-Fi. Je ne l'ai pas vue sur les plateformes présentement. Je ne l'ai pas vue sur Netflix ni sur Prime Video. Peut-être sur Crave, ça serait à confirmer. Mais elle passe présentement à la télé sur CTV Sci-Fi et sur le CW. Superman and Lois. Donc une nouvelle série de Superman. Et de toutes les séries de Superman que j'ai écoutées, c'est personnellement ma préférée. Je trouve que Superman est bien représenté cette fois-ci. L'acteur, c'est Tyler Oakland qui le joue. Lui, il a joué dans Road to Perdition, dans Teen Wolf. Et Fekoka, c'est lui qui fait la voix de Sephiroth dans Final Fantasy VII Remake. On a également Elizabeth Tulloch qui joue le rôle de Lois. Et Elizabeth Tulloch, on l'a surtout connue dans la série Grimm. Donc, c'est elle qui faisait la femme du personnage principal. J'aime également beaucoup, beaucoup, beaucoup cette actrice. On a également Dylan Walsh qui joue le père de Lois, qui joue le général. Et Dylan Walsh, c'est lui qui faisait un des deux docteurs dans Nip/Tuck. Ceux qui ont connu Nip/Tuck, la série des chirurgiens plastiques, Dylan Walsh, c'était un des deux docteurs. Donc, trois très très bons acteurs. Le Superman de cette série-là est beaucoup plus humain que toutes les autres séries qu'on a pu voir. Si je compare par exemple au Superman des films, des derniers films qui sont sortis, Man of Steel, Superman dans ces films-là est très dark, dans le sens qu'il est sombre, il est quasiment triste, on dirait qu'il est toujours déprimé. Dans Superman and Lois, le personnage est heureux, il est de bonne humeur, il a une famille, il a ses deux enfants, il est vraiment très humain, il est attachant, il est sympathique, il est drôle. Vraiment plus le Superman qu'on connaît dans les comic books. C'est pourquoi j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup cette série. J'adore cette série. Je suis accroché complètement à Superman and Lois. Un scénario très mature. On voit Superman qui essaie justement d'élever ses deux enfants adolescents, dont un des deux qui est en train de développer également des pouvoirs comme lui. Vraiment super intéressant. Une Lois beaucoup plus mature, beaucoup plus maman. Honnêtement, si vous avez la chance de commencer cette série-là, elle n'est pas, comme je dis, je ne la vois pas présentement sur les plateformes, donc peut-être difficile de trouver la saison 1. La saison 2 vient de commencer, je crois qu'il y a 4 épisodes de sortie présentement. Donnez-y une chance, allez l'écouter sur CTV Sci-Fi ou sur le CW, ça vaut vraiment la peine. C'est une excellente série, à mon avis. Déjà 3 nominations, aucune victoire pour l'instant, malheureusement, mais je sais que ça ne serait que tarder. Les critiques sont très très bonnes pour cette série-là. Ma note personnelle, c'est un 8.5, comme pour The Flash. Je suis content d'avoir enfin une autre série de super-héros où je suis complètement accroché. Superman & Lois, je vous le conseille fortement si vous avez la chance de l'écouter. Allez-y, lancez-vous douce. Finalement, on va parler rapidement d'autres séries DC. Titans, qui est basé sur les Teen Titans, qui est disponible sur Netflix, 3 saisons présentement, de 2018 à 2022. Très bonne série, saison 1 captivante, saison 2 poche, saison 3 fantastique. Si vous aimez les Teen Titans, si vous aimez les Beast Boys de ce monde, les Stargirl, Starfire, les Raven, les Nightwing de ce monde, Titans est une très bonne série pour vous, c'est quand même violent. C'est dramatique, il y a de la comédie. À mon avis, c'est une très bonne série. Allez-y, saison 2, très mauvais, je tiens à vous le mentionner. Mais saison 3, excellente. Titans sur Netflix. Doom Patrol, qui est disponible sur CTV Sci-Fi et sur Crave. 3 saisons présentement. Ça m'en veut être Brendan Fraser, entre autres. Brendan Fraser qu'on connaît dans ses rôles dans La Momie. Doom Patrol, une série sur des héros complètement débiles mentales. C'est plus que des anti-héros. Là. C'est des anti-anti-héros. C'est des gens qui veulent pas à être des héros, mais qu'ils sont malgré eux. C'est très humour noir. Donc c'est vraiment, c'est du gros humour noir. C'est vraiment pas de l'humour léger. C'est gras. Il y a de la violence, c'est très violent. Il y a des bras qui arrachent, il y a des têtes qui arrachent. C'est vraiment un style très particulier. Moi, j'aime beaucoup, même si des fois, je trouve que ça dérape un petit peu trop, ça va un petit peu vraiment trop dans le ridicule de temps en temps. Mais c'est quand même très divertissant. Moi, j'aime quand même vraiment beaucoup Doom Patrol. Si vous avez Crave, gâtez-vous, allez voir de quoi ça a l'air. C'est quand même très bon. Krypton, qui a joué de 2018 à 2019, deux petites saisons. Elle est disponible sur Crave. Je le recommande quand même très bon. Donc c'est un. Qu'est-ce que Krypton? C'est un prequel à Superman. Donc c'est l'histoire de son grand-père qui est sur Krypton et qui a des aventures, évidemment. Et on reconnaît des personnages de Superman comme General Zod et Doomsday également. C'était à mon avis une très très bonne série, c'était fort, c'était du solide, c'était captivant, mais pour une raison X, ils ont décidé d'annuler le show après deux saisons, donc ça a vraiment, la saison 2 finit en queue de poisson, on s'attendait à une saison 3, il n'y a pas de saison 3, donc c'est très décevant, donc c'est sûr que si vous voulez écouter une série qui va vous mener loin, Krypton n'est pas pour vous, parce que comme je vous dis, la saison 3 a été annulée. La saison 2 a fini sur un go cliffhanger, mais que finalement ça n'aura jamais suite. Donc ça, des fois, c'est décevant. Mais quand même, Krypton, si vous aimez l'univers de Superman, moi, je vous le conseille. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'aurais vraiment beaucoup aimé ça, avoir une saison 3. Une autre série d'ici, Swamp Thing. Donc, le monstre des marais. C'est en effet un personnage de DC. Je ne sais pas trop où l'écouter. Je pense que ça joue sur Showcase et sur Crave, mais je suis pas certain. Ça joue pas sur Netflix, ça joue pas sur Prime Video. C'est sorti exclusivement sur HBO Max. Donc c'est pour ça que je dis que probablement sur Crave, vous allez le trouver. Une seule saison. Le show a été annulé après 6 épisodes. Donc ils ont fini la saison 1 et ça s'est arrêté là. Les critiques étaient très, 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 très mauvaises. Je n'ai pas écouté la série, je ne suis pas intéressé par cette série-là, et par tout ce que j'ai entendu, ben je ne vous conseille pas non plus d'écouter Swamp Thing. Si vous l'avez écouté et que vous aimez ça, tant mieux, mais si jamais vous voyez ça passer à la télé ou sur une plateforme X et que vous dites « Ah, Swamp Thing, c'est DC, ça peut peut-être être bon », non, non, ne pèse pas sur Play, passe à autre chose. Swipe, swipe, va écouter autre chose. Swamp Thing, on n'écoute pas, s'il vous plaît. Il y a également Watchmen, qui est disponible sur Crave, je crois, parce que c'est exclusif également à HBO Max. Watchmen, qui est une série sur, si vous vous souvenez du film The Watchmen, c'est le même principe, c'est le même type de série. Les critiques sont très très bonnes, ce n'est pas mon style de série personnellement, mais les critiques sont excessivement très très bonnes, 70 pour une saison, là, 77 nominations pour différents prix, 55 prix remportés. Pour une seule saison. Là. C'est quand même beaucoup 55. Là. Et plusieurs de ces prix-là viennent des Primetime Emmy, qui est un des gros, gros prix dans l'univers télévisuel. Donc les critiques ont vraiment beaucoup adoré Watchmen. Si vous êtes capable de le trouver sur Crave, tant mieux. Moi, je n'ai pas Crave, je n'ai pas HBO Max, donc je n'ai pas pu écouter la série. Mais comme je vous dis, si vous l'avez, les critiques sont super bonnes. Donnez-y une chance. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous avez la chance de l'écouter et de nous écrire sur notre page Facebook à savoir si c'est bon ou non, on aimerait vraiment beaucoup ça. J'aimerais avoir vos feedbacks sur cette série-là si vous avez la chance de l'écouter. Avant-dernière série, Pennyworth. Donc, c'est une série sur Alfred Pennyworth, qui est le butler de Bruce Wayne. Une série sur la jeunesse d'Alfred Pennyworth. Ça joue présentement sur Showcase. Ça serait disponible également sur Club Illico. S'il y en a qui peuvent vérifier si c'est en effet disponible sur Club Illico, ça serait fun à savoir. Deux saisons de sortie présentement. Une troisième est confirmée. Et je n'ai pas vu la série, évidemment, parce que je n'ai pas Crave non plus. Et quand ça a commencé sur Showcase, j'ai manqué trop d'épisodes pour dire que je la commençais. J'aime pas ça commencer des saisons en plein milieu. Mais c'est sur Pennyworth. Critique mitigé. Il y en a qui trouvent ça bon, il y en a qui trouvent ça pas bon. C'est quand même une série sur quelqu'un qui devient un majordome. Oui, ok, c'est le majordome de Bruce Wayne. Mais encore, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une série là-dessus? À mon avis, je pense que non. Je pense que ça a été une façon d'aller chercher de l'argent. Mais si vous l'avez écouté, tant mieux. Si vous avez la chance de l'écouter, donnez-y une chance. Si vous aimez l'univers de Batman, ça peut être intéressant pour vous également. Pennyworth, ça passe sur Showcase et ça serait disponible également sur Club Illico. Et la dernière, c'est Gotham, série qui est sortie en 2014 sur le canal Fox, mais qui est également disponible sur Netflix. Gotham, évidemment, se passe dans l'univers de Batman. À Gotham, la série se veut un prequel à Batman. La série suit les aventures de Jim Gordon, le commissaire Jim Gordon. Donc, les aventures de Jim quand il était qu'un simple détective à Gotham. Beaucoup d'espoir pour la série, mais beaucoup de déception. Pour un non-fan de Batman, ça peut être super bon. Pour un fan de Batman, c'est décevant parce qu'ils ont vraiment pris l'histoire de Batman et ils ont tout scrappé ça. Ils ont apporté des personnages vilains qui n'auraient techniquement même pas dû exister à ce moment-là dans l'histoire de Batman, dans l'histoire de Gotham. Le Sphinx, le Riddler, n'a pas commencé quand Bruce Wayne était jeune. Le Pingouin n'a pas commencé quand Bruce Wayne était jeune. Même le soi-disant Joker qu'on voit dans la série, il n'a pas commencé quand Bruce Wayne était jeune. Catwoman n'a pas commencé quand... C'est un peu ça. Là, ils ont comme Bruce Wayne a genre 14 ans, puis il y a déjà un paquet de super vilains de Batman qui sont présents. Pour un fan, ça marche pas. C'était décevant. La série est quand même bonne. Le scénario est bon. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Très bon jeu d'acteur pour la majorité. Mais encore là, pour un fan de l'univers, ce fut pour moi personnellement décevant. J'y donne un 6.5 parce que c'est l'univers de Batman. Puis c'est quand même beaucoup de personnages que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Mais sinon, pas plus que ça. 7 prix remportés, dont effets visuels et bonne série dramatique. 5 saisons de 2014 à 2019 disponibles sur Netflix. Ça met en vedette Ben McKenzie dans le rôle de Jim Gordon. Ben McKenzie est connu surtout pour ses rôles dans The O.C. et dans Newport Beach. David Mazouz, qui joue le jeune Bruce Wayne, c'est un jeune enfant, donc très peu de matériel d'acteur. Robin Lord Taylor, qui joue le rôle du Pingouin, qu'on a vu dans Law and Order et dans la série You sur Netflix. On a également Sean Pertwee, qu'on a vu dans Event Horizon, qui joue le rôle d'Alfred Pennyworth. Fait Coca, c'est également lui qui joue plusieurs des voix dans la série Fable, le jeu vidéo Fable, donc c'est cet acteur-là qui joue les voix. Et on a Marina Baccarin, qu'on a vu dans Deadpool, dans Firefly, dans Homeland, dans V. Donc actrice très connue, vous allez la reconnaître, c'est sûr et certain. Donc de bons acteurs, de bons jeux d'acteurs également, un beau visuel, mais le scénario reste beaucoup à désirer. Comme je dis, si vous n'êtes pas un fan de Batman, vous allez sûrement aimer. Go for it, allez-y, si ça peut vous donner une bonne porte d'entrée vers cet univers-là. Mais si vous connaissez bien l'univers de Batman, vous risquez d'être particulièrement déçu. Voilà, gros épisode, comme vous le voyez, une grosse heure déjà. Donc, je ne peux pas vraiment appeler ça une capsule express. Donc, c'est un épisode complet. Allons-y comme ça. Surprise! Vous avez écouté un gros épisode. Je vous ai eu sans même le savoir. Donc, plusieurs séries DC disponibles à la télé, disponibles sur Netflix, disponibles sur Prime Video, disponibles sur Crave. Vous avez du choix en masse. Si j'ai réussi à attirer votre attention sur une de ces séries-là, tant mieux. Sinon, ben tant pis. Écoute, vous allez avoir passé une heure à écouter ma voix chaleureuse. Bande de chanceux. OK, c'est bon. On s'arrête là. prochain épisode, prochaine capsule express qui s'en vient. Je peux pas vous dire c'est quoi parce que je ne sais pas moi-même. Je travaille encore très, 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 très fort pour vous sortir l'épisode coup de cœur. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais je le redis, ça s'en vient. L'épisode coup de cœur bientôt. L'épisode spécial de la Guerre des Étoiles, n'oubliez pas, en diffusion le 4 mai 2022. Ça va être très, très le fun à tourner, très, très le fun à écouter, je vous le garantis. Et plein d'autres idées qui s'en viennent également au cours des prochaines semaines, prochains mois. Donc, restez à l'écoute. On aime ça vous savoir à l'écoute. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, La Critique de Yugi, allez faire vos commentaires, allez poser des questions si vous en avez, allez nous écrire des suggestions également sur notre page Facebook. On veut vous entendre. On veut que vous participiez à ce podcast. C'est super important pour nous. Donc, gâtez-vous là-dessus. Je suis tanné de parler. Vous êtes sûrement écœuré de m'entendre parler. Donc, on s'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, soirée, nuit, tout ce que vous voudrez. Et on se revoit la prochaine fois à La Critique de Yugi. Ciao tout le monde. Portez-vous bien.